Arnaud de Campagne, bonjour. Pour ouvrir cette dernière séquence dans les Pyrénées-Atlantiques, je vous annonce une découverte qui me rendra moins inculte ce soir en m'endormant. Le give, G-E-E-V. Alors j'espère que ça se dit give, parce qu'il y aura peut-être une allusion à l'anglais. To give, donner. L'histoire de cette application dédiée aux dons d'objets et aux liens qui se tissent entre donateurs débute à Paris, lorsque la petite équipe à l'origine du give découvre que des objets en tout genre sont abandonnés sur les trottoirs de la capitale. Ils créent un groupe Facebook sous le nom de Adopte un objet. Peu de temps après, une sollicitation lyonnaise l'engage à ouvrir un groupe dans cette seconde ville. Finalement, aujourd'hui, ce sont 200 groupes qui se constituent en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. Comme les réseaux sociaux ne présentent pas tous les avantages pour garantir une souplesse d'exercice et d'emploi, Adopte un objet a pris le nom de Give et est devenu une application gratuite qui s'est imposée aussi à Pau. On y vient à nos Pyrénées-Atlantiques. Elle réunit pour l'ensemble et pour le moment 190 000 membres pour plus de 200 000 objets qui ont transité gratuitement d'un propriétaire à un autre ou qui sont sortis de la rue pour faire un heureux ou une heureuse. Give.com. Une fois enregistrée, l'application vous permet de lancer des alertes sur des objets que vous souhaitez donner ou de recevoir ces alertes si vous êtes à l'autre bout de la chaîne. Derniers invités de la semaine, Étienne Jalado, salarié d'Asia, à l'origine d'un comité local pour l'épargne des jeunes. À lire en parallèle l'article dans les pages numériques de la vie de Madeleine Verdier. Et puis, nous rejoindrons Sylvie Le Calvez, directrice de publication du magazine Village, pour un tour de France des villages coup de cœur du magazine.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Étienne Jalado, bonjour.
Bonjour Philippe.
Étienne, vous êtes aujourd'hui salarié d'Asia, c'est une association porteuse d'un projet CLEJ, comité local pour l'épargne des jeunes, en Soule. La Soule, c'est la province du Pays Basque, c'est Bérois, avec ses forêts, ses lieux sauvages, mais tellement sauvages que on perd de la population, les jeunes ne trouvent plus d'emploi, ils n'ont plus de raison de rester dans le pays.
Exactement. C'est en tout cas le constat qui est à la source de la création de l'association en 98. Certaines personnes qui s'étaient réunies avec ce constat-là, effectivement, que les jeunes fuyaient le territoire et qu'est-ce qu'il fallait faire pour qu'ils restent et qu'ils créent des entreprises, etc.
Et alors, des entreprises adaptées quand même aux besoins, est-ce que 20 ans plus tard, on fait un bilan positif?
Alors, 20 ans plus tard, on fait un bilan plutôt positif, même si les chiffres de la démographie nous montrent qu'il y a une chute de la population qui continue en Soule. Malgré tout, il y a plein d'acteurs qui se mobilisent, notamment ACIA, notamment le comité local de peinte pour les jeunes, mais d'autres acteurs sur le territoire qui se mobilisent. Et après, je peux vous donner les chiffres du CLEJ qui sont intéressants, mais mine de rien, ça reste un territoire rural, et puis il y a toujours une fuite démographique vers les grandes métropoles, ça c'est sûr.
Alors le CLEJ, c'est quoi? C'est de l'épargne solidaire?
Le CLEJ, c'est de l'épargne solidaire, absolument. C'est de nombreux adhérents qui mettent de l'argent en commun. Et en fait, ce pot commun, on va pouvoir le redistribuer à des jeunes qui créent ou qui reprennent des entreprises en Soule.
Oui. Alors c'est un programme qui est édifié par et pour les jeunes. Sauf que au fil du temps, on prend un peu d'âge, on devient moins jeune. D'où ces générations perpétuelles de nouveaux CLEJ?
Absolument. On a dans les statuts comme obligation de recréer un tissu de bénévoles à chaque création de CLEJ, donc un nouveau conseil d'administration, le but étant de garder ces outils aux mains des jeunes. Donc on ne peut pas faire partie d'un CLEJ passé un certain âge.
Et le principe, Étienne, dans cette cagnotte solidaire, chaque adhérent met 180 euros.
Absolument. Donc voilà, il y a une première phase de collecte des adhésions, une deuxième phase de prêt aux porteurs de projets, donc qui sont des prêts à taux zéro, et ensuite une phase de remboursement. En général, ça se passe sur 3-4 ans.
Alors, il y a le financement solidaire, mais aussi le choix, l'orientation de l'entreprise. Ça, c'est une chose qui se prépare, qui se négocie avec les élus, qui se négocie avec les habitants ou avec les autres entreprises.
Alors, bien sûr, il y a effectivement une étude de marché. En revanche, nous, on est ouvert vraiment à tout type d'entreprise, que ce soit dans l'agriculture, mais aussi dans la restauration, dans les métiers artisanaux, etc. Donc on n'a pas de limite. En revanche, on va plutôt amener les porteurs de projets vers les chambres consulaires du territoire, vers différentes structures qui peuvent les accompagner à faire mûrir leurs projets.
Et quels sont les secteurs d'activité porteurs?
Ils sont plutôt liés à l'industrie. Contrairement à ce qu'on peut penser, on a des chiffres qui nous montrent que la conception recherche est en développement sur le territoire. des métiers de l'ingénierie, des métiers de pointe. Mais bon, il y a toujours aussi une culture de l'agriculture, le domaine de la santé, du service à la personne aussi est en développement sur le territoire.
Et depuis la mise en place du CLECH, c'est une centaine d'entreprises créées ?
Ouais, une centaine d'emplois créés. Et on a soutenu 64 projets. Et donc en 19 ans, j'ai le montant total des prêts. Donc ça s'élève à 228 115 euros. Donc ça, c'est la somme totale des prêts qui ont été effectués depuis 2000.
Mmh. Alors voilà. C'est des prêts qui parfois ne suffisent pas à financer l'activité, mais en tout cas, ils ouvrent les portes des banques.
Absolument. L'objectif, c'est vraiment d'aider le jeune au tout début de son projet. Et on fait des prêts à titre personnel. En moyenne, ce sont entre 3 000 et 4 000 euros. Le but étant de pouvoir contracter des prêts plus importants auprès de la banque.
Mmh. Il y a un lieu que vous nous conseillez en Soule. Il y en a tellement qui sont beaux.
Franchement, en Soule, une fois que vous êtes rentré dedans, je vous conseille d'aller plutôt vers Tardets.
Oui.
C'est là, c'est le début de la nature ici. Et puis, en tant que Parisien exilé, j'en ai pris plein les yeux et puis je compte bien rester par ici.
Tardets au pied des collines de la Madeleine, avec
exactement,
son panorama
ouais.
Sur la Soule et le pic du Midi d'Ossau, c'est superbe.
Ouais.
Le site d'Asia, c'est asia.xyz. Et puis il y a une page Facebook Asso Asia et vous aurez toutes les informations aussi concernant le CLEJ. Merci Étienne.
Avec plaisir.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Vous trouverez à nos pages d'émission deux liens avec deux histoires qui n'ont pas tout à fait grand-chose à voir, quoique celle de Fabien et de Delphine Parisien, lui photographe, elle styliste. Il décide de s'installer dans notre territoire des Pyrénées. Lui passe un diplôme d'herboriste à Lyon, avant de s'installer, passionné de plantes médicinales. Il les fait pousser dans sa ferme Cobrac, à Batch de Béarn, un potager en permaculture, un poulailler mobile, des brebis, une dynamique qui motive bien du monde, avec une interrogation en accueil de la ferme des médicinales, c'est son nom, qui a dit que dans une vie, il ne fallait faire qu'un seul métier. Et puis vous trouverez un lien avec l'excellent développement de la ferme de Félix Noblia, qui travaille sous couvert, et des semis sous couvert, sans herbicides. Ça, c'est encore un bel exemple. On rejoint à Caen Sylvie Le Calvez. Bonjour.
Bonjour Philippe.
J'entends votre sourire, c'est le sourire de l'été pour le nouveau numéro du magazine Village de l'été, évidemment.
Oui, et pour ça, on est parti faire le tour de France des villages pour voir quels étaient nos coups de cœur.
Bah oui, alors c'est à quelle occasion ? C'est une occasion anniversaire de la création du magazine ?
Non, c'est une envie. On s'est dit, depuis le temps qu'on existe, on ne va pas le rappeler, hein, parce qu'on va bientôt approcher les 30 ans. Mais,
c'est fait, tellement... voilà, c'est dit comme ça.
Voilà. Oh, ça ne nous rajeunit pas. Mmh. On a vu passer tellement de villages qui se démenaient pour faire les choses différemment, des maires avec leur équipe et les habitants qui imaginaient une autre façon de faire de l'énergie, de faire participer les citoyens, qui avaient une vision... très différente du courant dominant, on va dire. On s'est dit, et si on se disait quels sont nos coups de cœur dans tous ces villages qu'on a vus. Et puis la liste était très 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 longue. Un jour peut-être on fera un hors-série et on s'est dit, bah tant pis, on va en choisir 20 de façon aléatoire qui nous paraissent quand même très emblématiques d'une autre façon de faire. Et voilà, c'est le tour de France de ces 20 villages coups de cœur de l'équipe de la rédaction.
Ouais, vous dites village, alors je ne sais pas où ça s'arrête le village, parce qu'il y a des petites villes aussi qui sont recensées dans ces coups de cœur.
Oui, c'est vrai que c'est pas forcément la définition INSEE, même si effectivement elle change souvent la définition de l'INSEE, mais c'est vraiment une vision de développement local, ouverte sur l'extérieur, mais où on a pratiqué autrement et où on peut montrer des résultats très probants.
Alors il y a différents critères de sélection pour ces coups de cœur, au top du commerce et des services, au top de l'accueil, au top de la participation citoyenne, du patrimoine, au top du bio, au top de l'énergie, au top de la culture. Mais on va prendre un exemple concret, celui de l'Hospitalet près Landore, pour son hospitalité justement, puisque ce village voyait des menaces de fermeture, d'abord de l'école, l'abandon d'appartements qui appartenaient, puisqu'on est sur une zone frontalière, aux douaniers et qui étaient laissés vacants, la commune les a reprises en main, pour relancer une économie locale.
Oui, alors c'est vrai que c'était un village, l'Hospitalet près d'Andorre, il a un nom prédestiné, hein, mais qui vraiment se mourait, quoi. Les douaniers sont partis, les mines de fer ont fermé, et ça restait la route pour aller chercher de l'alcool ou des cigarettes pas chères, mais ça faisait pas venir des habitants. Alors il y avait beaucoup de bâtis disponibles, notamment justement l'ancienne maison des douaniers, et de moins en moins d'habitants, et inexorablement de moins en moins d'enfants, et l'école, comme souvent, allait fermer. Et le village s'est dit, mais ces maisons de douaniers, par exemple, tout cet immobilier disponible, et si on le rénovait pour accueillir des nouvelles familles? Ils ont eu une idée quand même super aussi pour maintenir l'école et pour rendre service, c'est d'ouvrir une maison pour les mamans en difficulté.
Mmh. C'est la maison des cimes, et ces mamans en difficulté peuvent effectivement trouver logement là, avec des enfants qui vont évidemment aller à l'école de l'Hospitalet. Or, il y a un autre village, puisqu'on va en parler dans peu de temps, on sera dans quelques jours dans le Gers. Sarran, bah, c'est l'inévitable librairie tartinerie, ouverte il y a 20 ans par Catherine et Didier Bardi. Ils ont 15 000 visiteurs annuels dans ce village de 360 habitants et ils sont entrés dans la référence même de la redynamisation des espaces ruraux.
Oui, ce qui est marrant, c'est que c'était déjà très courageux ce pari de faire une librairie tartinerie dans ce village du Gers. Ce qui est encore plus fort, c'est aujourd'hui d'y donner vraiment de l'ampleur au-delà de la librairie, autour du village de l'illustration qui est en train de se créer avec, pourquoi pas, l'accueil de résidents, d'artistes, d'illustrateurs, et puis ce fameux festival, hein, les Estivales de l'illustration, qui aura lieu du 18 au 21 juillet, c'est bientôt. Ça va au-delà de l'initiative de la librairie pour en faire un vrai projet qui a pris de l'ampleur pour l'ensemble d'une dynamique autour de l'éducation populaire dans le village, grâce à ce couple de libraires passionnés et qui travaillent en plus sur cette question des territoires au sein de leur librairie.
Et puis on se rapproche du siège normand du magazine Village en allant à Mortain-Bocage, en sud de la Manche. Et là, je découvre dans cette commune de 3381 habitants, très exactement, la plus grande SCOP spécialisée de France avec 1000 salariés et l'organisation d'un forum social sur place.
Oui, c'est vrai que c'est une commune dont finalement on parle peu, un peu timide, hein, Mortain-Bocage dans la Manche. Et pourtant, quand on est là-bas, c'est impressionnant. Bien sûr, il y a Acom, hein, une énorme coopérative qui fabrique de la fibre, qui a donné bien sûr du travail à beaucoup de gens localement. Mais il y a surtout une énorme vie associative. C'est impressionnant le nombre d'associations qui se sont tous serrés les coudes aux côtés de la municipalité et de l'intercommunalité et qui ont monté ce forum social du Mortainais qui accueille énormément de permanence, à la fois de permanence de services publics, puisque c'est en lien avec la municipalité, mais aussi des permanences pour tout type d'activité, de l'aide alimentaire, vestimentaire, du soutien aux devoirs, des démarches administratives, tout est rassemblé avec un forum en plus annuel. Et là, ils sont en train de monter une université interâge. Et dès qu'ils ont lancé le projet, il y avait déjà 350 adhérents qui ont financé pour créer cette université interâge qui va ouvrir à la rentrée. C'est impressionnant la dynamique associative de ce village de la Manche, assez loin de tout, hein, sinon, disons-le.
C'est dans le dernier numéro d'été du magazine Village. Le site, c'est villagemagazine.fr. Merci à France Bleu Normandie Caen qui nous met en relation avec Sylvie Le Calvez. Bel été, Sylvie, à vous.
Merci Philippe, à vous aussi.
Merci aussi à Anne Yoro qui réalise les carnets, à Joël Levert qui leur apporte des contenus, aux techniciens et techniciennes de France Inter qui leur donnent du volume, comme Arnaud Caillet aujourd'hui.